J'ai donc 4 de vos camarades qui se sont portés volontaires, que je remercie, parce que là, encore une fois, je veux bien essayer de trouver des solutions, mais je ne suis pas magicienne. Elles se sont gentiment, je les en remercie, portées volontaires pour diffuser. Je me mets un rappel tout de suite. Hop. Avant 14h, ça va être difficile, mais à 14h, je vous envoie donc. Je me mets un rappel parce que sinon j'oublie. Le plan de cours, le PDF des 10 fiches de TD, comme ça vous avez tout, et toutes les slides jusqu'au cours d'aujourd'hui inclus. Les fichiers audio, je les garde, ils sont postés sur eCampus, je les mets. On fera ce qu'on pourra, je ne peux pas vous les envoyer là par WeTransfer, ça va être un enfer. Ils seront là, de toute façon, très honnêtement, les fichiers audio. Vous êtes ultra présent en amphi, ce qui est une excellente chose. Avec le support des slides, ça devrait considérablement vous aider ensuite. Donc je vous fais ça, je vais l'arranger parce que sinon je vais la balancer la feuille. Je vous fais ça en début d'après-midi et donc merci à toutes les 4 de bien vouloir renvoyer directement. Et si l'une de vous 4 peut me faire un mail une fois que c'est transféré à tout le monde, que j'ai la confirmation, c'est nickel. Et sur les semaines qui suivent, soit on continue comme ça parce qu'on récupère pas eCampus et que j'en ai ras-le-bol et on trouvera une solution pour les fichiers audio, soit on repassera par eCampus si à un moment vous avez vos accès. Là où ça me pose plus de problèmes, vous avez accès aux bases de données? Non. Moi non plus, au demeurant, mais... Ok. D'accord. Bon, écoutez, voilà. C'est le minimum que je puisse faire, mais on va partir comme ça. Au moins, on a une solution de repli, que vous ayez les slides quand même, parce que si vous les récupérez à la fin de l'année, ça sert strictement à rien. Merci à toutes les 4. Allez, on s'accroche 40-45 minutes. On passe à une troisième section. On a donc vu, j'insiste là-dessus, vous le mettez en énorme, on a vu toutes les sources. Ça y est, les sources principales, les sources secondaires. Je fais simplement une troisième section qui, en fait, est une section à part sur les modalités d'interprétation pardon, de l'ensemble de ces sources. Voilà. Vous expliquez un peu comment ça fonctionne, notamment le rôle de la doctrine dont je parle un peu depuis le début du cours sans vous avoir vraiment expliqué ce que c'était. On va en parler ici et je vous expliquerai ensuite très rapidement les méthodes d'analyse. Donc une section 3 sur l'interprétation des sources. Évidemment, le premier temps, quand on évoque l'interprétation des sources, c'est le fait d'évoquer la doctrine. Voilà. Ça fait l'objet d'un paragraphe 1 sur le rôle, la place, les modes d'expression de la doctrine, ses fonctions. Et donc, on va commencer tout de suite avec un grand A sur les modalités, les modes d'expression de la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des travaux... Alors, traditionnellement écrit, mais maintenant beaucoup oral aussi, enfin oraux du coup pour les travaux, consacrés à l'étude du droit. Et dans une perspective plus large, le terme de doctrine, il vise souvent les auteurs de doctrine. Quand on dit la doctrine considère que, en réalité c'est les auteurs de la doctrine. Du coup, qui sont les auteurs de doctrine? Essentiellement, parce que ça relève de notre job, les enseignants-chercheurs. Donc professeur, maître de conférence, on est enseignant-chercheur, donc on a une part de notre temps qui est consacrée à l'enseignement, qu'on vous dispense là, et l'autre part de notre temps qui est consacrée à la recherche. Alors souvent ça surprend quand c'est pas en sciences dures, la notion de recherche, généralement quand vous en parlez, moi ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. On vous imagine dans un labo, etc., et donc la notion de recherche en droit... parfois un peu difficile à comprendre. C'est de la recherche sur des thèmes donnés. On choisit nos thématiques de recherche, donc ça s'inscrit dans le prolongement d'une spécialisation. Je donne mon exemple à moi, pas du tout pour me faire de l'autopromo, hein, c'est pas, pour le coup, c'est pas du tout le sujet, juste parce que je connais pas les sujets de mes collègues aussi bien, donc c'est pour vous donner un exemple. N'hésitez pas, si vous avez des enseignants-chercheurs sur des thématiques qui vous plaisent, à leur demander sur quoi ils travaillent, etc., parce que ça vous donne des idées d'orientation. Moi, donc, j'ai eu un cursus de privatiste, je me suis spécialisée en propriété intellectuelle, j'ai fait ma thèse sur la bonne foi en droit d'auteur, donc un peu classique, et maintenant, essentiellement, je traite en gros sur la recherche de la question de la protection de la jeunesse en ligne, d'où le fait que je vous ai pris la tête dès la première séance sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je vous mets dans la jeunesse malgré tout, encore un peu. Et le droit des jeux vidéo, que je fais beaucoup. Ouais. Venez faire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que je sais d'une part que ce n'est pas une carrière qui pour l'instant vous attire beaucoup, que ça c'est absolument fascinant. Vous choisissez vos thématiques de recherche. Voilà. Vous êtes dans un pôle de spécialité, mais vous travaillez sur absolument ce que vous voulez comme thématique. Vous déterminez vos thématiques. J'ai des collègues qui travaillent sur le contrat dématérialisé. Il y a plein de thèmes comme ça qui existent et que vous choisissez. Donc, les travaux des enseignants-chercheurs, c'est quoi ? Le premier travail d'un enseignant-chercheur, c'est sa thèse de doctorat. Hein. Donc, tous les enseignants-chercheurs que vous avez en amphi ont soutenu une thèse de doctorat. Et ensuite, les travaux pendant la carrière d'enseignant-chercheur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des manuels, évidemment, que vous consultez là, qui sont l'œuvre d'enseignants-chercheurs, hein, dans cette université ou dans d'autres. Donc, des manuels, des précis. Beaucoup d'actes de colloque aujourd'hui qu'il ne faut pas hésiter à consulter sur certaines thématiques, ça peut vous être extrêmement utile. Et puis, dans les revues juridiques, qu'en principe, vous pourrez consulter en ligne quand on aura récupéré nos bases de données, des articles sur certains thèmes, et puis des notes de jurisprudence. Et on m'a posé la question tout à l'heure, très justement, l'une de vos camarades est venue me voir en me disant « Mais sur le conflit qu'on évoquait entre le législateur et le juge, comment est-ce qu'on peut envisager que le législateur, s'il veut aller dans une position contraire au juge, par exemple, il ait eu connaissance de la décision rendue ?» Et c'est vrai que c'est une très bonne question. Des décisions rendues, il y en a des milliers quotidiennement. Comment est-ce que le législateur se tient informé ? Alors c'est assez simple, hein. Il y a des veilles qui sont réalisées, et notamment des veilles qui sont réalisées par les éditeurs juridiques, Dalloz, Lexis, Lamy, etc. Et les arrêts qui semblent un peu importants sont commentés. Au premier titre par des enseignants-chercheurs, également par des praticiens. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'avocats qui commentent des décisions, des juristes d'entreprise, etc. Dans les revues spécialisées, vous avez des revues sur le droit des biens, des revues de droit de la famille, des revues de propriété intellectuelle, des revues de droit de l'urbanisme, des revues de droit international public, etc. Vous en avez à peu près dans toutes les branches du droit aujourd'hui. Et puis vous avez les revues générales, en gros la semaine juridique chez Lexis et le recueil Dalloz chez Dalloz, qui là ont un spectre beaucoup plus vaste que des revues thématiques. Mais en gros, c'est ça. Donc, les travaux de la doctrine, c'est des interventions en colloque, publiées ou pas, et des écrits, sous les différentes formes que je viens de vous donner. Ça, c'est pour le contenu, en gros. Comment est-ce que ça se présente ? Quelles sont les modalités d'expression de la doctrine ? Maintenant, il faut s'intéresser, et c'est sans doute le plus intéressant des deux, il faut s'intéresser aux fonctions de la doctrine. Évidemment, la cafette est ouverte si vous avez envie de sortir pour rigoler. La doctrine n'est pas une source. C'est éventuellement ce qu'on peut considérer comme un outil d'analyse, un outil aussi de clarification. Je vous cite la formule de Philippe Gestase. Ce n'est pas la peine de la noter, c'est juste pour que vous ayez l'idée à l'esprit. Philippe Gestas, qui est donc un grand professeur de droit, hein, dans son ouvrage Le Droit, et qui écrivait « Pour mesurer le rôle de la doctrine, il suffit en guise d'expérience de faire lire le code civil à un non-juriste. C'est à en croire le prédécesseur de Knock, un bon remède à l'insomnie. » On sert aussi à ça. On sert, j'aurais tendance à vous dire, et c'est pour ça qu'à mon avis, les deux casquettes d'enseignant et de chercheur, elles sont difficiles à rendre complètement hermétiques l'une par rapport à l'autre. C'est avant tout un rôle de pédagogie, un rôle explicatif. Avant de rentrer dans les autres missions, le rôle premier de la doctrine, et donc au premier titre des enseignants-chercheurs, c'est d'essayer d'expliquer, de clarifier des contenus juridiques qui parfois sont extrêmement arides, abrupts, difficiles à comprendre. Et c'est pour ça que, sans doute, que la fonction d'enseignant-chercheur, elle a un rôle véritable, parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On a des lectures différentes, mais le rôle d'enseignant favorise parfois, ouvre des pistes de recherche possibles quand vous prenez un nouvel enseignement. Et à l'inverse, le rôle de chercheur, quand on veut être un peu clair, les méthodes qui sont développées en amphi, qu'on essaye de développer pour rendre le propos un peu plus clair, permet d'être clair aussi quand on s'exprime, non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que chercheur. Voilà. Les deux sont liés, mais en tout état de cause. Et c'est pour ça que je vous dis, alors, l'absence des bases de données, ça facilite clairement pas les choses. Mais quand je vous dis d'aller lire la doctrine, en première année, c'est essentiellement pour ça. Quand vous avez dans la fiche de TD un arrêt que vous ne comprenez pas, allez lire ce que la doctrine a écrit dessus. Alors parfois, vous avez vu, hein, et vous verrez là, tout à l'heure, vous aurez le fichier global des fiches de TD. Parfois, je vous mets, moi, directement l'analyse de la doctrine. Je vous ai mis une note de jurisprudence, un commentaire de l'arrêt que je vous mets, etc. C'est pour vous aider à comprendre. C'est normal en première année que la lecture d'un arrêt de cassation tout seul, il soit un peu dur pour vous, que ce soit pas, voilà, que ce soit pas spontanément, j'ai compris l'ensemble des enjeux, la solution, ce qu'elle peut dégager pour la suite. Chaque chose en son temps. Voilà. C'est normal en première année. Mais donc la clé, plutôt que de relire 40 fois l'arrêt, parce que ça peut vous aider au bout d'un moment, la relecture, c'est quelque chose d'utile. N'hésitez pas à le faire. Mais enfin, si à la 35e lecture, vous avez toujours rien compris, il ne faut pas insister. Allez chercher la doctrine. Donc, normalement, je vous dis comment ça se passe, mais normalement, vous rentrez le numéro de l'arrêt. Pour la Cour de cassation, vous rentrez le numéro du pourvoi dans la base de données. Ça va vous sortir l'arrêt et les commentaires associés qui ont été publiés. Lisez les commentaires. Voilà. Il n'y a pas de secret. Vous avez une dissertation à faire sur un sujet, etc. Allez lire sur le sujet. Voilà. C'est encore une fois... Votre connaissance, votre compréhension, votre maîtrise du droit ne viendra pas spontanément. Voilà. On ne naît pas avec une espèce de lumière révélée où je suis juriste, ça y est, j'ai tout compris. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est à chaque fois que vous découvrez une nouvelle thématique, dans 15 ou 20 ans, quand vous serez installé dans votre pratique, il faudra continuer à lire, hein. Parce qu'il continuera à y avoir des thématiques où vous êtes coincé, où vous ne comprenez pas, où vous... Toujours. Mais donc, surtout, ne pensez pas que vous avez la vérité révélée, que le cours d'amphi suffit, parce que je ne suffis absolument pas, hein, du tout. Je fais le maximum, mais regardez la taille d'un bouquin d'intro au droit, comparé à la fin de vos prises de notes, ce que vous aurez en quantité, je ne rivalise pas sur 33 heures. C'est impossible. Donc, allez consulter ailleurs, allez lire ailleurs, allez lire d'autres points de vue que le mien. Absolument. Alors là-dessus, attention. En première année, c'est toujours un peu touchy comme sujet. Parfois, ce n'est pas un point de vue ce que je vous donne. Quand je vous explique que le contrôle de conventionnalité, il est assuré par le Conseil d'État, la Cour de cassation, ce n'est pas un point de vue. C'est le fonctionnement. Voilà. Là, je suis objective. Quand je vous dis, moi, je suis de ceux, donc je le précise en cours, évidemment, mais... qui considère que le contrôle de proportionnalité, pardon, il porte des risques en lui et ce n'est pas une bonne chose, évidemment que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas là pour former des étudiants qui vont se dire « si je ne suis pas d'accord avec elle, elle va me saquer ». Du tout. Je suis susceptible sur plein de trucs, mais moi j'attends qu'une chose, c'est que vous soyez éventuellement en désaccord avec moi. Voilà. Encore une fois, moi, mon boulot, c'est pas de faire en sorte qu'on soit tous d'accord. En plus, on va s'ennuyer à mourir. C'est de faire en sorte que la réflexion et la discussion, le cas échéant, s'instaure. Voilà, de vous amener à réfléchir par vous-même. Donc, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Plus tard dans le cours, on va parler de la question de la reconnaissance de la personnalité juridique aux animaux et aux robots. Si certains y sont favorables, foncez! Allez lire la doctrine qui est favorable là-dessus. Moi, je vous expliquerai pourquoi je suis archi contre. Mais c'est moi. Je n'ai pas d'autorité supérieure sur l'avis que je vous donne, sur les enseignements que je dispense, sur le fond du cours, oui. Parce que je suis plus vieille que vous, que j'ai 20 ans de droit dans les jambes maintenant. Je commence à faire beaucoup. Pas 20 ans comme maître de conf, hein, abusez pas. Mais 20 ans de droit, je sais plus que vous. Heureusement, hein. Peut-être que dans 20 ans, vous serez là. Voilà. Non, calculez pas, je vous vois faire. Ah, vous êtes pénible. J'étais déjà à la fac quand vous êtes né. C'est une information qui doit vous suffire. qui à moi me suffit amplement.
La différence entre la connaissance du droit, et là c'est de l'abrupt, et ce sera enseigné dans tous les cours d'intro pareil, et les points de vue qu'on donne. Et les points de vue, eux, ils divergent, et vous vous faites votre opinion.
Mais donc voilà, le rôle de la doctrine, c'est ça, le premier rôle. Un rôle de pédagogie, un rôle d'explication. Mais c'est pas que ça, évidemment. Il y a un rôle aussi d'analyse prospective. Alors là, je prêche pour ma paroisse, mais évidemment, quand vous faites du numérique, il y a des enjeux que vous voyez venir, et l'un des rôles de la doctrine, notamment sur ce thème-là, c'est d'identifier les pistes d'amélioration, les problèmes qui vont surgir, les solutions éventuelles pour les résoudre. La doctrine a les forces de proposition. Elle n'a pas de force contraignante, encore une fois. C'est un messager, un peu. Voilà, là, ça pourrait être amélioré. Là, il y a des points un peu incertains. À cet endroit-là, on pourrait éventuellement intervenir légalement, la jurisprudence suffit, etc. Elle donne un avis qui n'est que consultatif, qui ne lit personne. Parfois, de toute façon, on est lu par deux pèlerins, donc ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais l'objectif, c'est une influence possible. Voilà. En matière prospective, donc une réflexion sur le futur, hein, la réflexion prospective, c'est ça, c'est de voir les pistes d'amélioration, d'identifier les pistes d'amélioration. Comment on peut faire pour que le droit fonctionne mieux? Et parfois, le message est entendu par le législateur. Vous avez un certain nombre d'enseignants-chercheurs dont les propositions ont été reprises soit par le juge, soit par le législateur. Voilà. Parce qu'ils lisent la doctrine. Et donc, parfois, ils sont influencés dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, attention, pour autant, ça n'est pas une source, c'est un élément d'analyse du droit, mais il n'y a aucun caractère contraignant dans la doctrine. J'en termine là-dessus. Sur cette question-là, il nous reste un paragraphe avant de finir ce chapitre-là. Je vais aller beaucoup plus vite sur la question des techniques. Alors, il y a deux trucs que je veux évoquer avec vous ici. Là, on est dans le concret de l'application du droit, en fait. C'est des techniques qui vous permettent d'appliquer le droit. Alors, la technique la plus connue, qu'on va vous rabâcher jusqu'à la fin de vos études, que vous pratiquerez derrière quand vous serez devenu un professionnel du droit, c'est ce qu'on appelle le raisonnement syllogistique, c'est-à-dire majeur, mineur, solution. Vous embêtez même plus à prendre en photo. Hein. Là, pour le coup, je vous envoie tout ça tout à l'heure. Hein. Je vous dis les slides jusqu'à aujourd'hui. Elles vous les diffuseront, vous aurez tout. Comment est-ce que ça fonctionne? En gros, avant de rentrer dans les trois étapes, le syllogisme, c'est le passage de la règle, donc de la règle de droit pour ce qui nous concerne nous, au fait. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un instrument d'application du droit. Je prends ma règle, je l'applique aux faits qui me sont soumis. L'exemple le plus connu qu'on vous file dans, à mon avis, absolument tous les cours d'intro au droit, c'est un exemple que vous avez peut-être déjà rencontré, notamment en philo. Vous faites encore de la philo au bac? Ouais. Bon, bah, notamment en philo. Je ne connais plus les programmes. Notamment en philo, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Si je décortique. Et donc, il faut le lire, évidemment, avec le parallèle du premier schéma. Vous commencez par énoncer la règle applicable ou les règles applicables. Là, dans notre exemple, il n'y a qu'une règle. Très souvent, dans un syllogisme, un cas pratique en droit, vous allez avoir plusieurs règles à évoquer. Vous posez la règle applicable. Là, dans notre exemple, la règle, c'est que tous les hommes sont appelés à mourir. Voilà, un jour. Ensuite, vous passez à la confrontation aux faits. La confrontation aux faits, dans notre exemple, c'est que Socrate est un homme. Socrate remplit bien la condition de qualité de la règle posée. La condition de qualité, c'est l'humanité. Là, c'est homme, encore une fois, au sens neutre. Hein. C'est l'humanité. La règle s'applique à tous les hommes. Or, lui, c'est un homme. C'est la confrontation aux faits. C'est ce qu'on appelle la mineure, donc. C'est-à-dire, vous allez vous saisir uniquement des faits qui correspondent ou ne correspondent pas, pour exclure l'application de la règle, mais qui sont dans le champ de la règle applicable. Et qu'est-ce que vous en déduisez ? Que Socrate est mortel. Parce que vous avez appliqué la règle au fait. La règle en majeur, l'effet pertinent en mineur, alors l'effet pertinent, la confrontation au fait pertinent en mineur, est-ce que les conditions sont remplies, ne sont pas remplies, à quel titre, etc. Qu'est-ce que vous déduisez de cette confrontation ? Une solution. Là, en l'espèce, dans notre exemple, encore une fois, c'est que Socrate est mortel. Cette technique-là, du raisonnement syllogistique, vous allez vous l'appuyer à partir de maintenant en permanence. Voilà. Elle ne vous quittera plus. Pendant vos études, pendant votre pratique ensuite, sauf que pendant votre pratique, évidemment, et je m'adresse notamment à ceux d'entre vous qui se destinent au métier d'avocat, en fait, quand vous serez avocat, vous ferez un syllogisme inversé. On va venir vous chercher pour vous dire « moi, je veux aboutir à cette solution-là », et vous allez essayer de remonter le fil pour convaincre le juge que le syllogisme, c'est bien celui-là. Mais vous, en fait, en tant qu'avocat, par définition, vous allez partir de la solution à laquelle vous voulez aboutir, et vous allez remonter le fil. C'est pour ça qu'on vous l'apprend dans le bon sens, pour que vous soyez en capacité de l'inverser une fois que vous aurez besoin de l'inverser. Mais très souvent, vous allez l'inverser. Et quand vous serez juriste d'entreprise, c'est pareil. La boîte dans laquelle vous serez veut aboutir à cette solution-là. Comment je fais ? Ben, je remonte un syllogisme. Donc, là, vous jouez avec les règles de droit quand vous l'inversez. Mais pour pouvoir jouer avec les règles de droit, il faut savoir le faire dans le bon sens. Donc ça, c'est le raisonnement syllogistique, encore une fois. Je le laisse de côté. Vous l'aborderez largement en TD. Vous verrez aussi que je vous ai mis une... Je l'ai fait aussi pour la dissertation et pour la fiche d'arrêt. Vous avez des fiches méthodologiques dans les fiches de TD. Afin que, simplement, la méthode soit la même dans tous les groupes. Voilà. On va vous l'enseigner, mais la base de l'enseignement dans chaque groupe de TD, c'est la méthode que je vous ai mise pour la fiche d'arrêt, pour le cas pratique et pour la dissertation. Vous aurez tous la même méthode. En intro, parce qu'on est très fort d'une matière à l'autre pour avoir des règles différentes. Je préfère vous prévenir maintenant, mais en intro, vous aurez tous le même fonctionnement, comme ça au moins on exclut la première difficulté. Je termine très rapidement avec les méthodes d'interprétation. Avec les arguments juridiques plus exactement, et donc les méthodes d'interprétation d'une part et les méthodes d'argumentation d'autre part. Je vais faire très vite là-dessus. Hein. Clairement, vous ne serez pas interrogé là-dessus, c'est juste pour vous donner des clés d'analyse du droit. D'abord, sur les méthodes d'interprétation. Alors, il y a deux grandes méthodes qu'on va essayer de synthétiser, enfin, que le juge synthétise derrière. Dans les méthodes d'interprétation, vous avez d'une part la méthode exégétique. Ça s'écrit E-X, E accent aigu, G, E accent aigu, T-I-Q-E, exégétique. Et d'autre part, la méthode de libre recherche scientifique, à l'autre bout du spectre. Donc, méthode exégétique, méthode de libre recherche scientifique. Pardon. La méthode exégétique, c'est la méthode qui suppose de coller au maximum au texte de la règle de loi, de droit, pardon. De s'en éloigner le moins possible, parfois, d'avoir un respect quasi absolu de la lettre même de la règle. Cette méthode exégétique, donc collée à la règle qu'on applique, elle fait l'objet d'une critique majeure, qui est que, en fermant le champ d'interprétation au seul texte lui-même, on peut passer à côté de l'interprétation. On se prive d'éléments qui peuvent graviter autour de la règle de droit et qui pourraient utilement l'éclairer. Voilà. Donc, c'est la grande critique qu'on formule à l'égard de la méthode exégétique. L'autre méthode, qui est à l'inverse exact, c'est ce qu'on appelle la méthode de libre recherche scientifique. Et alors là, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on part du texte applicable et on va chercher partout autour tout ce qui gravite. Et quand je dis tout ce qui gravite, c'est les travaux préparatoires dont on a déjà parlé, les rapports, etc. Mais c'est même en dehors du champ du droit. C'est-à-dire on va aller puiser dans l'histoire, dans l'équité, dans les mœurs, des travaux sociologiques, etc. pour donner un sens différent à la règle. Et alors là, le reproche inverse peut être formulé aussi. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas trop ? Est-ce qu'en allant chercher l'ensemble des éléments qui permettent de donner un regard différent sur la règle, on finit pas par trop s'éloigner de la règle elle-même ? Donc c'est les deux opposés. Méthode exégétique, vous collez absolument. Méthode de libre recherche scientifique, vous vous détachez au maximum en allant chercher d'autres sources. Le juge a trouvé une alternative en empruntant aux deux méthodes. C'est-à-dire que le fonctionnement de base, Et là, je parle surtout du juge civil, parce que pour le juge pénal, c'est différent. Il y a une règle d'interprétation stricte de la loi pénale, donc c'est un peu différent. Mais pour le juge civil, dans le judiciaire, il va se coller à la règle, il va faire une interprétation du texte lui-même, mais le cas échéant, s'il en ressent le besoin, pour alimenter l'interprétation du texte lui-même, il ira chercher ailleurs. Essentiellement les travaux préparatoires, mais le cas échéant, peut-être même dans d'autres sphères que la sphère juridique. Bon, encore une fois, ça tombera pas à l'examen, si c'est ça qui vous inquiète. C'est juste pour que vous ayez les clés de compréhension. Dernier point sur les types d'arguments juridiques. Ça, vous allez les rencontrer souvent, il faut que vous sachiez. Dans les grandes lignes, disons, à quoi ça correspond. Trois arguments à vous donner. Il manque l'argument a fortiori, il faut le rajouter. L'argument téléologique, l'argument a pari, l'argument a fortiori et l'argument a contrario. Alors, l'argument téléologique, c'est quoi ? On va rechercher la finalité qui est poursuivie par la loi. On interprète pour aller déceler la volonté du législateur. L'interprétation téléologique, c'est ça. Et donc, évidemment, dans ce type d'interprétation-là, le recours aux travaux préparatoires, il est déterminant. Quand vous cherchez la volonté qui a animé le législateur pour créer la règle, bah vous allez voir les travaux qui l'ont amené à l'adoption de la règle, donc tous les travaux préparatoires. Ensuite, ce qu'on appelle l'argument à pari. C'est les arguments par analogie. Vous allez procéder par comparaison. Vous avez deux situations juridiques similaires. Pour la première, il y a une règle de droit qui est prévue, pas pour la deuxième. Vous allez faire un raisonnement par analogie. Puisque les deux raisonnements, les deux situations se ressemblent et qu'on a une règle prévue pour la première, pas pour la deuxième, alors j'applique ma règle de la situation 1 à la situation B par analogie. Ça, c'est l'argument à pari, donc. Ensuite, il y a l'argument a fortiori. L'argument a fortiori vous permet d'étendre une solution à des faits qui ne sont pas prévus par la règle, mais pour lesquels l'application de la règle se justifierait encore plus. Exemple, si vous avez une disposition de loi qui vous dit il est interdit d'avoir deux époux ou deux épouses, bon, bah, a fortiori, il est interdit d'en avoir 30. Voilà. Si la bigamie est interdite, a fortiori, la polygamie l'est aussi. Si on a voulu interdire le fait d'avoir deux époux ou deux épouses, c'est deux à minima, voilà. De toute façon, si on interdit deux, on interdit forcément au-dessus de deux. C'est pas le chiffre deux qui froisse. L'argument a fortiori, c'est ça. Dernier argument, et ça, c'est le plus compliqué. L'argument a contrario. Un conseil, en première année, faites particulièrement gaffe à l'argument a contrario. Souvent, il marche. Donc, l'argument a contrario, évidemment, c'est d'inverser le sens d'une disposition pour voir ce qu'elle recouvre pas. Donc, il y a des fois où elle marche très bien. Exemple, l'article 1103 du Code civil vous dit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Article 1103, hein, vous irez le chercher. Cet article-là, si on le lit à contrario, il veut dire que... Donc, d'abord, pour vous expliquer le sens de la disposition, parce que ce n'est pas forcément limpide. Cet article-là, il pose la force obligatoire du contrat entre les parties. L'un d'entre vous et moi, on a conclu un contrat de vente. Ce contrat nous oblige, nous contraint, vous comme moi. L'un a payé le prix, l'autre à remettre le bien. A contrario, ceux qui n'ont pas conclu le contrat ne sont pas concernés par sa force obligatoire. Si je lis a contrario, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, a contrario, ceux qui ne les ont pas faits ne sont pas tenus par sa force obligatoire. Donc dans notre exemple, tout le reste de l'amphi n'est pas tenu par le contrat de vente. Là, l'interprétation a contrario, elle marche très bien. C'est ce qu'on appelle la force relative des contrats. Le contrat ne lie que les parties au contrat, tous les autres ne sont pas liés. Donc là, une interprétation a contrario de 1103, elle marche parfaitement. Je réessaye avec 1240, dont on a déjà parlé, la grande disposition sur la responsabilité civile. L'article 1240, anciennement 1382, vous dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En gros, dès lors qu'il y a une faute commise par une personne, cette personne doit réparer la faute. enfin le préjudice causé par la faute. Si je le lis à contrario, cet article, la personne qui n'a pas commis de faute n'a pas d'obligation à réparer le dommage. Lecture à contrario. Sauf que là, ça ne marche plus. Parce que vous découvrirez en deuxième année qu'en droit de la responsabilité civile, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des responsabilités sans faute, comme leur nom l'indique, des responsabilités objectives, où votre responsabilité pourra être engagée alors même que vous n'avez commis aucune faute. Donc vous ne pouvez pas lire 1240, pardon, vous ne pouvez pas le lire à l'inverse. Voilà. 1240 ne peut pas être lu comme « A contrario, ceux qui n'ont pas commis de faute sont jamais responsables ». Bah si. Si vous avez des enfants, vous êtes responsable du fait des dommages commis par vos enfants. Si vous êtes un employeur, vous êtes responsable des dommages causés par vos salariés dans le cadre du contrat de travail. Si vous êtes propriétaire d'une chose, et notamment d'un animal, on en reparlera, vous êtes responsable des dommages causés par cette chose, et notamment par votre animal. Vous, vous avez commis aucune faute, vous y êtes pour rien. Mais vous avez une responsabilité objective, sans faute. Je vous reparlerai de ça par la suite, je voulais juste vous dire, gardez à l'esprit que l'argument a contrario, il faut que vous l'utilisiez uniquement si vous êtes sûr de vous. L'argument a contrario, en droit, il est particulièrement traître parce qu'il ne marche pas toujours. J'en termine là avec, encore une fois, un des morceaux de bravoure du cours d'intro sur les sources. Vous voyez comme, en guise de conclusion, que la matière est particulièrement riche, que les sources sont très variées, que les auteurs sont différents. Il faut faire preuve de logique pour vous retrouver dans tout ça.
Mais j'avais une slide sur le... Où est-ce que je l'ai mise ?
Ouais, vous avez une vision de ce qui vous attend, c'est sympa. Hein. Bon, c'est parce que je l'ai mise à la fin de la partie. D'accord. C'est moi qui...
Ok. Donc, il faut que vous maîtrisiez la hiérarchie des normes. Parce que c'est par la hiérarchie des normes que vous comprenez les différentes modalités de contrôle. Il faut aussi que vous compreniez l'importance des sources complémentaires et que vous compreniez les importances distinctes des sources complémentaires. La coutume, je ne suis pas en capacité de vous dire que c'est absolument capital dans un cursus. La jurisprudence, c'est absolument capital. Si vous ne maîtrisez pas la jurisprudence, vous ne deviendrez pas des juristes. Donc elles sont d'importance diverses, ces sources complémentaires. Ne négligez jamais la source complémentaire qui est la jurisprudence. Le juriste qui va se contenter des sources instituées, donc la loi, le bloc de conventionnalité, le bloc de constitutionnalité, c'est pas un juriste. Certes, c'est une source secondaire, mais vous ne pouvez pas aborder le droit, quelle que soit la matière que vous choisirez comme champ de spécialisation, sans aborder la question de la jurisprudence. C'est un truc qu'il faut garder avec vous, c'est pas parce qu'elle est secondaire dans les sources qu'elle est secondaire dans votre apprentissage, du tout. On attaque maintenant. Je fais l'intro du chapitre et on s'arrête. Le dernier chapitre de notre première partie, déjà, sur la question de l'application de la loi. Je vous ai dit la semaine dernière, il y a deux grands morceaux de bravoure sur la difficulté des thématiques, les différents contrôles dans la hiérarchie des normes et l'application de la loi dans le temps. On le fera la semaine prochaine, l'application de la loi dans le temps, c'est l'autre difficulté. Vous aurez plein de schémas pour vous repérer. Vous verrez que ce n'est pas si ardu que ça, mais ça demande de la récurrence et de la rigueur dans l'apprentissage. Sur juste... Voilà, le cadre un peu générique à vous donner avant qu'on s'arrête. Maintenant, vous savez ce que c'est que la loi. Vous l'avez mise en perspective avec toutes les autres sources du droit. On l'a divisée, notamment en fonction des thématiques sur la relation publique-privée. On connaît ses caractéristiques sur lesquelles je ne vais pas revenir, notamment le caractère contraignant, etc. Donc là, on est très avancé, en fait. On a presque tout traité sur la compréhension de la règle de droit. Il nous reste à voir, et c'est en fait, c'est la finalité de tout ce qui précède, hein. Comment est-ce que je l'applique ? Parce que c'est bien gentil tout ce qu'on a vu précédemment, mais si on n'a pas les clés pour l'application de la règle de droit, l'application de la loi, évidemment, tout ce qu'on a dit précédemment sert à peu près à rien. Les questions qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est les suivantes. Comment est-ce que naît et comment est-ce que meurt la loi ? Je parle de manière métaphorique, évidemment. Il n'y a pas de naissance et de mort physique de la loi. Je parle en fait de comment est-ce qu'elle devient effective, comment est-ce qu'elle devient contraignante et à quel moment est-ce qu'elle le devient. Et à l'inverse, à l'autre bout du prisme, quand est-ce que, dans quelles hypothèses elle peut perdre cette effectivité, ce caractère contraignant. Voilà. La naissance et la mort de la loi, métaphoriquement, c'est ça. Tout le prisme, toute la chronologie sur laquelle elle a force contraignante pour les citoyens. À quel moment elle l'acquiert, à quel moment éventuellement, c'est pas une obligation, à quel moment éventuellement elle la perd, cette force obligatoire. Et par ailleurs, et c'est là-dessus qu'on va insister, et c'est ça qui est un peu ardu, qu'est-ce qu'on fait si deux lois se contredisent ? Alors là-dessus, attention. Le premier réflexe, c'est de vous dire « Non, mais c'est une blague, on a passé 4 heures sur les différents contrôles, je sais ce qu'on fait s'il y a un conflit entre des sources. » Oui, vous savez ce que vous faites s'il y a un conflit entre deux sources de valeurs différentes. Les contrôles dans la hiérarchie des normes, ça a servi à ça. Moi, ma question ici, elle est différente. Qu'est-ce que je fais si j'ai deux lois, donc dans le même bloc, qui se contredisent ? Là, mes contrôles de la hiérarchie des normes, ils ne me servent à rien. Je suis dans le bloc de l'égalité, uniquement. Donc je ne peux pas avoir recours aux différents contrôles que j'ai vus. Qu'est-ce que je fais donc si j'ai deux lois par définition de valeur égale dans la hiérarchie qui sont en contradiction l'une avec l'autre ? Ne pensez pas que c'est une question qui est une tête d'épingle. Pourquoi ? Toujours notre fil rouge qu'on continue à dérouler, à cause de l'inflation législative. Plus il y a de lois et plus il y a de risques de contradiction entre des lois. Donc ça arrive relativement souvent. Et surtout, comment est-ce que je vais faire pour l'appliquer dans le temps, cette loi ? Comment est-ce que je vais passer de la loi A qui s'appliquait avant à la loi B qui s'applique désormais ? On va voir que c'est structuré autour de deux grands principes qui sont, je vous les donne maintenant, vous les aurez dans le plan de cours, on en parlera, on commencera à en parler la semaine prochaine, l'application immédiate de la loi nouvelle et la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Voilà. En gros, c'est ces deux principes-là qui sont sujets à un certain nombre de tempéraments qu'on abordera. Mais voilà, c'est les questions que je veux qu'on se pose ici. Comment je fais pour déterminer à quel moment la loi devient contraignante, à quel moment éventuellement elle perd cette caractéristique de force obligatoire ? Et de l'autre côté, comment est-ce que je fais si j'ai deux lois qui se succèdent et qui se contredisent ? Qu'est-ce que je fais de ma loi B nouvelle par rapport à ma loi A si ma loi B est en sens contraire avec ma loi A ? Voilà. Quand on aura terminé ça, un cours et demi, je dirais en termes de volume, on en aura fini avec la question du droit objectif. Je croise les doigts pour que vous soyez toujours aussi nombreux parce qu'on est presque à la moitié, on sera à la moitié du prochain cours. C'est très agréable pour moi que vous soyez tous là. Je vous envoie promis en début d'après-midi aux 4 délégués spontanés les contenus et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.